Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On termine en musique avec la nouvelle star du rap, Oxmo Puccino, et ses textes sont en quelque sorte un voyage dans sa cité.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Michel ?
Oui, c'est moi.
Michel Jonas ?
Ça se voit pas ?
Ça, c'est pas quelque chose qui a été choisi par les quartiers de trafiquer de la drogue. C'est pas quelque chose dont on peut être vraiment fier. Et je dirais que vendre cette image n'arrange pas l'idée profonde qu'on peut se faire de ces endroits où il y a beaucoup de gens incroyables qui n'ont rien à voir avec la musique ou le sport ou la drogue, tu vois. Et donc, je trouve dommage de s'approprier comme une gloire quelque chose qui nous a longtemps été reproché à juste titre et qu'on n'a même pas choisi. C'est ce que je trouve dommage dans le rap.
Trop de glamour, trop de romantisme dans la façon dont les rappeurs d'aujourd'hui racontent la bicrave, le trafic de shit. Pour lui, les dealers ne sont pas des héros, plutôt des victimes de la place qui leur a été assignée.
Pourtant, lui aussi la chante, la weed, mais sur un autre registre, celui de l'amour fou, de la passion. Et il la chante depuis longtemps, car notre invité du jour est un ancien du rap game, un OG et un sacré stoner.
Banana Kush, épisode 33, avec Oxmo Puccino, c'est parti!
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ?
Des bananes.
Vous en voulez ?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau !
Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast de culture du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet.
Animer un podcast qui s'appelle Banana Kush sans jamais l'inviter, ça aurait été un sacrilège.
Oui, bon, d'ailleurs, attendre l'épisode combien ? 33 ? En soi, c'est déjà presque un sacrilège, Christophe.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on avait envie de le recevoir, ce monument de la culture française et de la culture stoner. Rappeur, poète et désormais romancier, Abdoulaye Diarra, alias Oxmo Puccino, a débarqué dans le game au milieu des années 90. D'abord avec le collectif Time Bomb, puis avec une première bombe solo sortie en 1998, Opéra Puccino.
Depuis, des albums, il en a sorti 8 autres, mais aussi un roman en 2021, Les Réveilleurs de Soleil aux éditions La Grenade. Ça, c'est pour le côté culture française. Et pour la culture stoner, Christophe ?
Eh bien, on va vous laisser écouter la discographie d'Oxmo et sa déclaration d'amour pour les plantes. On l'a rejoint un vendredi froid mais ensoleillé, derrière les vitres givrées d'un café parisien dans le quartier d'Opéra.
Puccino. Bonjour Oxmo Puccino.
Bonjour.
On est ravis de te recevoir dans Banana Kush. Ça fait un certain nombre de mois qu'on essaye de te mettre le grappin dessus et ça y est, ça
le
arrive.
Le grappin est là.
Le grappin m'a choisi.
Eh bien, bienvenue. Merci beaucoup. On va commencer par notre question traditionnelle.
Oui.
Quel fumeur es-tu, Oxmo ?
Grand. Grand et gros. Grand et gros fumeur. Grand fumeur parce que je suis un épicurien. Et gros parce que je consomme beaucoup de sandwichs, il paraît.
Alors ici par contre on dit pas sandwich, on dit banane.
Ça c'est combiné de toute façon, c'est bobo, c'est ouinge.
Banane.
Ouais, banane ou joint, pétard, enfin tout.
Ouais, des joints, j'en fume beaucoup. Ça m'apaise, vous comprenez ?
Non, beaucoup, c'est-à-dire concrètement.
Je fume le matin, dès le matin, et jusque en fin de journée où je fume beaucoup moins. Donc c'est plus début de journée. Et c'est ma routine, quoi.
Mmh. Donc c'est plutôt un rythme inverse de la plupart des fumeurs qui vont plutôt avoir tendance à ne pas fumer la journée et à allumer un joint en rentrant le soir.
Pas la plupart des fumeurs autour de moi, en tout cas. Ah. Ouais, je ne suis pas une mauvaise influence, mais ouais, je suis dans un rythme régulier, je dirais, un rythme rasta. Voilà, comme on dit.
Qu'est-ce que ça t'apporte ?
L'apaisement, du goût, des découvertes et des rencontres. Des temps morts qui passent agréablement. Voilà, c'est toutes ces excuses qu'on trouve pour expliquer ces addictions. Ben, juste, j'aime ça, quoi. Tu vois, je suis pas dans le dualisme de ceux qui disent faut que j'arrête, je vais arrêter un jour, oh putain, je déconne. Non, je suis pas là-dedans du tout.
Tu t'es jamais dit ça ? Tu t'es jamais dit ma consommation elle est peut-être problématique, t'as essayé d'arrêter ?
Ben, je sais que je fume trop, puis voilà, tu vois. quand je suis dans un contexte qui est moins, disons, moins soutenu, je fais moins attention à ça. Je fais moins attention à ça, ouais, bien sûr.
Alors c'est marrant que tu parles d'apaisement, puisque Oxmo Puccino a l'air d'être quand même quelqu'un de relativement posé et apaisé. Du coup, est-ce que ça, c'est grâce à ta consommation ? Est-ce que sans, quand tu fumes pas, au contraire, t'es plus une pile électrique ou
Je pense être plus speed, mais je ne pense pas que ça joue sur mon humeur. C'est sûr que ça me relaxe. Donc forcément, quand on est plus relax, on est d'un peu meilleure humeur. C'est l'excuse que je m'invente. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle tient la route. Et quand je fume pas, je suis un petit peu plus speed, je pense, mais ça ne me change pas littéralement, quoi. Je suis juste un peu plus, voilà, tu vois, il n'y a pas de sucre dans le café, quoi. Et quand t'as l'air apaisé, ça reste qu'un air. On ne sait pas le cheminement qui est nécessaire à cet apaisement apparent. Et on dit souvent qu'il faut se méfier des gens qui ont l'air trop apaisés, parce qu'ils couvrent souvent une explosion. Ouais.
Ça bouillonne à l'intérieur.
Toujours.
C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça.
Tu disais que c'était aussi par goût, pour le goût.
Ah oui.
C'est vrai que tu te définis aussi, j'ai lu, comme un gourmet de la weed.
Bien sûr.
Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu trouves dans le goût de la weed ?
C'est-à-dire que tu vois, par exemple, moi je suis plus un fumeur de hashish. Donc quand je fume de la weed, il faut que ce soit vraiment la qualité. Tu vois ? Je sais comment on la cultive depuis des années. Je suis entouré d'amoureux, de passionnés qui m'ont transmis ce savoir-faire, cette manière de goûter, et puis la connaissance de la plante. Je suis passionné de plantes en général.
De façon plus large.
Ouais, de façon générale. Je suis très dans la phytothérapie. Je crois à l'énergie des plantes, tu vois. Donc, je ne consomme que la weed qui a été poussée avec amour. Voilà, c'est-à-dire que je ne fumerai jamais de la weed industrielle. Je peux pas de toute façon, tu vois. Si ça n'a pas de goût, si ça sent pas l'amour, si ça n'a pas été rincé, s'il y a encore de l'engrais, je le jette.
Et toi, tu cultives du coup ?
Mais je peux pas le dire si je le cultivais, tu vois. Bon, je cultive pas parce que j'ai pas de place chez moi. Mais le jour où j'aurai une maison, faites attention. Et ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça sent. Enfin, il faut un espace dédié à ça. Et c'est vrai que le fait que ce ne soit pas légal n'arrange pas les choses.
Effectivement.
Voilà. Mais c'est sûr que le jour où les choses vont se libérer, forcément j'aurai ma culture, hein, c'est sûr.
Même s'il ne peut pas dévorer tout le potager, et même si les fleurs sont un peu longues à pousser, petit ours brun aime beaucoup jardiner.
Alors si on revient au tout début, si on remonte un petit peu dans le temps,
oui.
Quand est-ce que tu as commencé à consommer ?
J'ai commencé à la sortie du premier album.
D'accord.
En 98.
Tu étais déjà un petit peu âgé.
Oui, heureusement. Heureusement, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir ça à l'âge où tu as un tout petit peu plus de recul que l'âge où on commence à fumer généralement pour des raisons autres que l'apaisement. Voilà.
Toi, tu avais quoi ? Tu avais la vingtaine ?
Ouais, j'avais 23 ans. J'avais 23 ans et c'était un contexte qui s'y prêtait. Parce que, voilà, moi, découvrir la fume à Paris, ça, tu vois, voilà. J'avais déjà ma vie à Paris avec mes habitudes. J'avais pas besoin d'une nouvelle habitude en plus. Et c'est souvent quand tu vas à l'étranger, que tu voyages, que tu découvres d'autres parties de toi, que tu trouves des réponses que tu n'attendais pas. Et donc je descendais de Paris, j'arrivais à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Et il y avait ces gens, il y avait de la mangue, il faisait chaud, il y avait des cocotiers. Et c'était en hiver. Et je vois des gens qui fument un truc qui sentait très bon. Que j'avais pas l'habitude de sentir. Parce qu'à l'époque, c'était encore le marocain. Tu vois, un truc dégueulasse qui fume, qui fait la fumée noire, qui troue tes vêtements. Moi, je fumais pas ça. Ça donnait pas envie. Et donc, je suis là et je vois tous ces gens qui rigolent. Et qui fument et qui rigolent. Et je me dis, ça se trouve, si je fume, je vais rigoler comme eux. Et ils me proposent, et mon manager Ricky, que j'aime de mon cœur, me dit, si tu veux goûter, c'est ici qu'elle est super bonne. Et donc, je goûte et ça me fait rien.
Ça me fait rien ton truc là.
Et on prend la voiture pour aller je sais pas où, pour aller chercher à manger. Et là, tout d'un coup, j'entends des musiques que je connaissais très bien, avec des mélodies, des arrangements, des instruments que j'avais jamais entendus de ma vie sur cette musique, des musiques que j'aimais beaucoup. Et je commence à voir les lumières d'une certaine façon. Enfin, ça a changé beaucoup de choses qui ont fait que j'ai roulé un autre joint 10 minutes après. Ouais. Et que je me suis jamais arrêté depuis ce jour-là.
Donc c'est vraiment cette modification des perceptions qui t'a parlé en premier ?
Oui. Et vraiment, cette espèce de relâchement corporel et spirituel qu'on peut atteindre avec un peu de méditation, tu vois, un moment d'ivresse, tu vois, des choses comme ça, mais dans un état normal, c'est un peu compliqué.
Ouais. Tu dirais que tu as un rapport presque mystique à cette plante ?
Totalement, bien sûr. Tous les rapports aux plantes sont mystiques, tous. Que ce soit la lavande, le thym, le tilleul, le yel, enfin, tu te nourris de salade, tu vois, des fruits de la terre. Et donc, il y a des plantes qui te nourrissent au premier degré, et puis il y a des plantes qui te nourrissent spirituellement, il y a des plantes qui te soignent. Il y a des plantes qui ont des propriétés magiques. Et donc, pour moi, la marijuana n'échappe pas à cette règle. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui avait procédé à des séances d'ayahuasca. Tu vois. Et donc, un des problèmes qui s'était posé, c'est qu'il consommait la marijuana. Et le chaman lui a dit que c'était une plante qui était trop puissante et qui pouvait ne pas laisser assez d'espace aux autres. Et ça m'a parlé tout de suite. Je veux dire, les raisons pour lesquelles l'association de deux plantes peuvent donner un remède alors que séparément elles n'ont aucun effet, pour moi, une raison naturellement mystique.
Sur cette planète, il y a des milliers et des milliers de kilomètres carrés. Pourtant, on manque d'espace. Il faut bien faire de la place, de la place. Alors, la forêt, y'a qu'à la supprimer.
Banana Kush,
la, 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 la.
Camille Diao,
la, 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 la.
Christophe Payet.
La, 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 la.
Mais alors, qu'est-ce qui t'a préservé jusqu'à l'âge de 23 ans de consommer, d'essayer avant
cette âge-là ? Déjà, c'était pas bon. C'est-à-dire que, cannabiquement parlant, le pollen, le seum, est arrivé à la début des années 2000. Donc avant ça, on n'avait que du Tchernobyl marocain, qui était un mélange de résidus, de hachis, de plastique et d'autres substances comme le henné, qui était très connu à l'époque, qui faisait que c'était un produit inconsommable et toxique, et ça ne donnait vraiment pas envie. Il y a la skunk qui a commencé à arriver à la fin des années 90, mais c'était trop fort. Pour s'y mettre quand t'es pas fumeur, c'était, tu vois, c'était un peu... c'était pas attirant, c'était pas attrayant. Et c'était cher en plus, c'était très cher. Et puis le fait que j'ai grandi pas loin des trafics fait que j'ai un rapport un peu interlope avec ça. Ouais. Aucun plaisir. La plupart des gens qui étaient autour de moi en vendaient plus qu'ils en fumaient.
Bah, alors parlons-en, ça justement. Tu as grandi vers le quartier de Danum, place des Fêtes, dans le 19e arrondissement de Paris. Mmh. Ça, la présence de shit, oui. Le trafic, c'était quelque chose qui était présent, qui était quotidien quand t'as grandi.
Il a fallu que je quitte le quartier pour me rendre compte que le monde entier n'était pas comme ça. Ouais, c'était normal, tout le monde en avait, c'était une économie parallèle qui était prédominante dans ce quartier, c'est connu quoi. Donc pour moi, c'était vraiment un produit commercial. Et le fait que... il y a beaucoup de dépression, on n'appelait pas ça comme ça avant, on appelait ça pétage de plomb. Beaucoup de dépression était accompagnée de cette substance. On faisait un lien un peu facile et rapide entre la folie et le cannabis. Donc il y avait tu vois, un peu de répulsion. Quoi. Donc ouais, il n'y avait vraiment pas une belle image. Et puis en plus, ceux qui trafiquaient ça n'étaient pas des modèles. Quoi.
Je suis pas une baltringue, moi, les mecs.
Non, mais ça, nous, enfin, moi, si je peux me permettre, dès qu'on est arrivé, je me suis dit, lui, pas...
Tout à fait d'accord avec toi.
Il a pas l'air de déconner.
Puisque tu parlais du trafic qui était finalement naturel, enfin, qui t'entourait dans ce contexte-là, dans ta jeunesse, dans S13635, donc sur un de tes tout premiers albums en 2001, oui. L'amour est mort,
oui.
T'écrivais « Tes gosses se font traiter comme des étrangers ».
Tes gosses se font traiter comme des étrangers, ça y est, le stress s'est transmis. Le stress, c'est nous, c'est pour ça qu'on fume le popo. La police peut nous pousser à la faute. Contrôle, y a-t-il un fusil dans le coffre ?
Merci de noter ce passage d'un morceau que personne ne m'a relaté, mais qui est d'une importance capitale pour moi.
Pourquoi ? Ouais.
Pourquoi ? Bah, tu vois, le morceau stress 635, déjà, il y a le mot stress dedans, tu vois, S13. Et 635, parce qu'à l'époque, c'était un pistolet. un petit calibre qui tenait dans la poche du jean et qui était très vendu dans les quartiers qui venaient des pays de l'Est. Et c'est une époque où il y a eu les premiers règlements de compte, enfin les choses comme ça. Je me posais déjà la question à l'époque des raisons pour lesquelles on pouvait se retrouver dans cette situation, tu vois. Les raisons pour lesquelles la concentration de délinquants se trouve aussi dans ces quartiers. L'histoire de nos parents, parce que la colonisation n'est pas expliquée à l'école, elle est survolée. Donc je me posais toutes ces questions et je suis arrivé à faire le lien entre des parents qui débarquent dans un pays qui n'est pas le leur, qui doivent s'en sortir avec des enfants en bas âge, beaucoup d'incertitudes, une langue mal maîtrisée, des enfants qui naissent dans ce contexte, qui se sentent exclus. Et c'est un cercle de la violence qui est très connu, très régulier. Et je dis souvent, si les enfants sont bizarres, regardez les parents. Tu vois, quand vous sentez des délinquants, imaginez l'histoire de leurs parents. Tu vois, tout ça est dans ce passage-là.
25 ou 30 piges, t'arrives ici français, tu piges pas. Tu fais un peu de pèse, la femme s'amène.
Vous savez, le stress est transmis. C'est pour ça qu'on fume le popo, pour se relaxer. Et là, quand je dis que la police peut nous pousser à la faute, c'est vrai. Et c'est quelque chose que les citoyens ont découvert avec les gilets jaunes. Nous, les gomme-cognes, on connaît ça depuis les années 80, quoi. Tu vois, les yeux crevés, on connaît ça très bien, tu vois. Mais on n'en parlait pas à la télé. Et quand je dis, y a-t-il un fusil dans le coffre, c'est parce qu'à l'époque, je venais de signer et j'étais avec une amie, qui est devenue une très bonne amie, quelqu'un de très proche, qui travaillait dans le label et qui m'avait accompagné en taxi. Et il y avait eu un règlement de compte dans le quartier deux ou trois jours avant. Et donc c'était tendu. Comme d'habitude, la police, elle tourne. Comme si on allait régler les comptes quand ils étaient là. Et je rentre chez moi et bien sûr, on me contrôle. Et le keuf, il demande est-ce qu'il y a un fusil dans le coffre.
Contrôle, y a-t-il un fusil dans le coffre?
Et la personne qui était avec moi était surprise de cette question que j'ai l'habitude d'entendre, à laquelle j'ai l'habitude de répondre, et qui était très polie ce jour-là.
Eh, hey, dis donc toi, t'as une grande gueule, tu vas vite la fermer, hein.
Ouais, je vais la fermer, putain, j'en ai ras le cul, moi, de me faire arrêter. J'ai pas de travail, j'ai pas de maison, j'ai une bagnole pourrie. Regardez la porte, là. Elle t'ouvre pas, la porte, je suis obligé de passer par derrière comme un con, putain, je me fais arrêter toutes les 10 minutes. Mais merde, c'est pas nous, les bandits. Nous, on est des nuls, putain. Laissez-nous tranquilles, 5 minutes.
Bah, ce passage, il nous a aussi intéressé, effectivement, parce que du coup, tu évoques la question de la relation entre la police et les habitants de ces quartiers. Et c'est vrai que le cannabis, c'est un objet assez central. La prohibition du cannabis aujourd'hui en France, bon, c'est un sujet qu'on a aussi exploré dans un autre podcast.
Oui.
Mais c'est presque un outil de contrôle de ces populations.
Mais totalement. Mais c'est qu'on charge une drogue selon la population qui la consomme. Aujourd'hui, on veut arrêter les chevaux. Eh ben, on va taxer tous ceux qui mangent de l'avoine, on va les rendre illégaux. Voilà. Eh ben voilà, maintenant c'est les méchants. Et tu peux faire ça avec tout. Il suffit de trouver le point faible et de charger. C'est de l'ingénierie sociale, quoi, tu vois. C'est quelque chose de très commun.
Le vin, c'est le fruit de la terre. Le vin, c'est une passion.
Mais c'est quand même un peu flirter avec la mort, tout ça, non?
Mais c'est pas flirter avec la mort, parce que les gens sont très heureux quand on les avertit.
Tu penses que la prohibition du cannabis est raciste?
La réponse à cette question se trouve aujourd'hui, là, à la télé. C'est pas moi qui vais y répondre. C'est trop facile. Il suffit d'allumer sa télé, d'écouter l'autre parler. Je dis l'autre, on sait très bien de qui je parle.
Georges Glub, enfin, voyons, sois raisonnable.
De mettre CNews, enfin, c'est... Le schéma est assez facile à comprendre quand on prend un peu de recul, tu vois.
Et pour le coup, l'autre a été assez explicite sur sa vision des dealers qui sont tous noirs et arabes.
Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Voilà. Il a tout dit et personne ne l'a vraiment réfuté. Donc tout va très bien. Tout va très bien.
Les enfants, connaissez-vous la lettre Z? Z comme zéro.
Alors sur une note un petit peu plus légère, on s'est plongé en préparant cette interview dans tes albums et dans tes textes. Et alors assez récemment, sur ton album La Nuit du Réveil, donc qui est sorti en 2019, il y a un morceau qui nous a bien fait rire avec Caballero et Jean Jass, ce duo de rappeurs belges qui sont assez amateurs
aussi
de cannabis, assez gourmets.
Ah non, t'es passionnant amoureux.
Morceau qui s'appelle Social Club. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce titre et ce que vous aviez envie de raconter?
Bah, c'est très simple. Moi, je l'ai recouru après pendant 3 mois pour essayer de discuter du morceau.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope.
Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Parce que on a cette passion commune, les clubs, les socioclubs. C'est l'ambiance, surtout quand c'est quelqu'un que vous connaissez qui le tient, c'est encore plus chaleureux, vous êtes plus qu'à la maison. C'est paradisiaque. Voilà, c'est paradisiaque. Je souhaite que ça existe en France un jour, ça le fasse bien.
Alors juste pour préciser pour nos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas le concept des Cannabis Social Club, je ne sais pas si c'est dans toute l'Espagne, mais c'est en Catalogne, à Barcelone.
En Catalogne, bien sûr, en Catalogne. En Catalogne et dans les autres endroits, c'est un peu plus discret.
Ouais, donc le cannabis n'est pas légal, mais on a le droit de se rassembler
c'est des clubs,
en association.
C'est des clubs, c'est des associations avec des membres affiliés, des membres de l'association qui... en échange d'un abonnement, ont le droit de consommer une certaine quantité de cannabis et de l'emmener chez eux pour la consommer ou de la consommer sur place. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est comme un café, comme un lounge, sauf qu'on peut fumer. Lorsqu'on habite dans le nord, en France ou en Belgique, dans ces pays qui manquent un peu de soleil de temps en temps, et qu'on se remémore ces clubs qui sont en Espagne, près du bord de la mer, avec des boissons, des cocktails fruités, des saveurs herbacées qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui ont poussé avec amour. Eh ben, lorsqu'on pense à tout ça, on a envie de le chanter. Trouve-moi une prod, cool, bonne ambiance, posée, peura, je vais les renvoyer et on va faire un morceau sur notre kiff à tous. Alors quand j'aurai exposé Social Club, il n'y a pas eu de réponse, il y a juste eu un couplet qui est arrivé un peu plus tard.
Désolé si j'ai l'air désagréable, c'est parce que je suis encore clean. Je suis trop chaud, allumé la clim. Je suis sapé comme si j'avais un clip. Je me sens lourd comme une enclume. Je suis membre du club, elle colle comme la glu.
Grande bouffée air pur, les clés sont perdues. Où est la voiture?
Et malgré tout, il y a quelques années, t'as chanté un petit week-end à Amsterdam bien avec Olivia Ruiz.
Bien sûr, bien sûr. Énorme. Amsterdam, c'était un lieu de pèlerinage à l'époque. Je pars à Dam, ça fait toujours rêver. Cette idée des canaux, des péniches, de ce froid, des vélos qui tournent autour de vous, des musées, du quartier rouge et des clubs. Si tu y vas, tu fais le fou, tu as toujours une histoire drôle à raconter quand tu rentres d'Amsterdam, toujours.
Alors, est-ce que tu en as une à nous raconter, là?
Je pense à ce jour où on arrive et t'as toujours un pote qui est chaud, qui prend un ouinge et qui va se coucher. Tu vois, moi j'avais trouvé un truc qui avait tourné. De toute façon, t'es pas mon copain, tu vois pas un copain connard. Tu vois, j'avais trouvé cette petite boutade, ce weed, et je l'ai fait tourner à ma toute la nuit. Et des fois, même aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans, des fois je me le dis avec celui qui était avec moi et on se le rappelle, on rigole. De toute façon, tu veux pas un copec, t'es pas mon copain, connard.
Tu vois. Rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur.
J'adore rire.
Alors du coup, ça me fait penser, est-ce que ça veut dire que dans ton processus d'écriture, la weed peut jouer un rôle justement en faisant émerger des petites phrases, des petites punchlines? Est-ce que ça t'aide en termes de créativité ou absolument pas?
Je ne sais pas du tout, car j'écris rarement à jeun. Mais c'est sûr que si je n'étais pas aussi relaxé, beaucoup d'idées ne me viendraient pas. Oui, c'est comme lorsque je dois prendre le métro ou marcher, parce que j'ai pas pris mon vélo ou parce que j'ai pas envie d'être en taxi, bah, je sais que je dois rester open pour les idées qui arrivent et c'est pour ça que je marche. Et en fait, cet état est automatique lorsque je fume. C'est comme si je me créais une espèce de bulle dans laquelle le temps est ralenti et m'appartient. Voilà.
On en revient à cette idée un peu de méditation finalement.
Y a des cultures où l'herbe, la consommation de l'herbe, fait partie d'un moment sacré méditatif. Les Rastas, chez certains Indiens, je crois, ou chez beaucoup de rappeurs.
Chez beaucoup de rappeurs.
J'ai cité les rappeurs aussi, ouais. Oui. Oui. À partir du moment où on ritualise quoi que ce soit, ça devient important. L'eau est sacrée, les plantes sont sacrées, l'air est sacré, la terre est sacrée, nous sommes sacrés.
Ma personne est sacrée.
Je vois du sacré partout, c'est spinoziste.
Que sais-je ? On l'appelle que sais-je, je sais pas pourquoi. Alors tu sais que Spinoza a quelque chose à voir avec l'Orient. Oui.
Puisque tu citais les rappeurs et leur rapport au cannabis, c'est vrai qu'on a cité quelques-uns de tes textes, mais en fait, la weed, on la retrouve dans pas mal de
tes
textes.
Oui, oui, oui.
Et de façon même plus globale, on la retrouve beaucoup. C'est un élément presque central du récit qui nous est fait dans le rap français.
Ouais.
Qu'est-ce que ça nous dit ? C'est quoi l'importance du cannabis dans le rap français ?
Ben, c'est que pendant très longtemps, les rappeurs venaient des quartiers. Et il y a très peu de quartiers qui n'étaient pas dans ce marché parallèle. Donc forcément, ça empruntait. Le discours du rappeur était empreint de ça, vu qu'il racontait son contexte, il racontait sa vie. Et tu ne pouvais pas passer à côté du trafic. Et aujourd'hui, c'est même devenu un argument de vente. Tu vois ?
On vendra. Quand il y aura des acheteurs, il est 23h10. Mais les pas que par autant phare. S'il légalise le touch, on ouvrira des terrains d'MD. Si je savais que ça rapportait, j'aurais bibi depuis la CM2.
Je trouve ça dommage.
Dans quel sens ?
Dans quel sens ? Bah, tu vois, c'est pas quelque chose qui a été choisi par les quartiers de trafiquer de la drogue. C'est pas quelque chose dont on peut être vraiment fier parce que c'est pas légal. Et je dirais que vendre cette image n'arrange pas l'idée profonde qu'on peut se faire de ces endroits où il y a beaucoup de gens incroyables qui n'ont rien à voir avec la musique ou le sport ou la drogue, tu vois.
Le charbonneur charbonne, le gérangère. Trafiquant en plein. Trafiquant en plein. Trafiquant en plein.
Un gros gros méchant.
Je pourrais citer beaucoup d'intellectuels, d'entrepreneurs qui ont fait leurs preuves, dont on ne parle pas, hélas, pour montrer une autre image. Je trouve dommage de s'approprier comme une gloire quelque chose qui nous a longtemps été reproché à juste titre et qu'on n'a même pas choisi. Tu vois, c'est comme les mecs qui disent ouais, ici c'est chez moi, c'est ma cité. Non mec, c'est pas chez toi, c'est pas ta cité. On a mis tes parents là parce qu'ils n'avaient pas de thunes. Toi t'as grandi là et tu t'es approprié cette galère à laquelle tu t'es adapté, mais tu l'as pas choisi. En fait t'es une victime. Donc dire chez mon terrain c'est chez moi, c'est jusqu'à ce qu'on te soulève en fait. Tu vois, c'est ce que je trouve dommage dans le rap. Nous on en a parlé mais c'était en témoignage, on l'a jamais glorifié. Moi, j'ai jamais glorifié. Pour moi, ça a toujours été une malédiction qui a été une source de problèmes. De mères qui pleurent parce que leurs enfants sont en prison. Des mercredis après-midi où t'as la flemme d'aller voir ton frère ou ton cousin au parloir. Tu vois, c'est tout ça pour moi. C'est toute la face cachée. Moi, c'est tout ce que je vois quand on parle de ça.
Mais c'est-à-dire qu'on est passé d'une chronique du réel à un argument marketing.
Exactement. Alors que c'est quelque chose qui est devenu encore plus dangereux. Tu vois, le trafic, c'est devenu encore plus dangereux.
Et pourquoi ça fait vendre aujourd'hui de raconter ça ?
Ben parce qu'à ce fantasme, c'est devenu glamour, parce que c'est mis en scène. C'est quelque chose qui était discret, qui était caché. Et aujourd'hui, c'est mis en scène d'une manière cinématographique, alors que la réalité n'a pas tellement à voir avec ça. Voilà, je sais pas quoi penser, tu vois, j'ai pas envie d'être mauvais réalisateur.
Il y a aussi, je pense, aujourd'hui, des rappeurs, et là, instinctivement, je pense à PNL, qui parlent du trafic, mais qui éludent pas aussi tous les côtés négatifs que ça peut avoir. Enfin, on a souvent dit que PNL fait un peu cette chronique du spleen du dealer, du spleen de la bicrave. Donc ça aussi, c'est raconté quand même dans le rap, pas par tout le monde.
Le code pénal sous la semaine, nique le week-end, nique la semaine. J'attends de voir où cette petite voie nous mène. Hugo, je dois rester moi, t'inquiète, je veux pas la ressembler. J'aime pas l'humour de l'inspecteur, je dois faire cette monnaie. Olé, olé, je casse en tour mon ami, j'ai décollé. Titulaire sur la rente à abonner. Oh, salut mon vieux, tu nous reconnais. Pas changé, toujours pas d'amis.
Oui, bien sûr. Mais à partir du moment où celui qui le raconte le fait d'une trop belle manière, qu'il est joli, qu'il est charmant, ben, ça fait un beau paquet cadeau quand même, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que aujourd'hui, la frontière entre l'information et le divertissement, elle a été effacée. Quelle que soit la cause que tu défends aujourd'hui, tu lui mets un logo, tu lui mets une belle punchline avec une belle vidéo derrière. Et c'est la même chose que ceux qui vendent des carottes, des yaourts ou de la salade, tu vois. Quel que soit ton propos, il faut le faire valoir et il faut le faire valoir à côté des marques de vêtements, des influenceurs, des marques de produits de beauté. On est tous à la même échelle, au nombre de followers, tu vois. Et c'est ça le truc aujourd'hui, c'est que quel que soit le contenant, le packaging, efface tout. Tu vois, la raison pour laquelle tu prêtes attention à un argument aujourd'hui est tellement puissante pour faire la différence avec les autres que tu oublies le message. Là, tu me dis PNL. Quand on dit PNL aujourd'hui, on pense quoi ? Gros chiffres, succès, deux frères, deux beaux gosses qui sont tristes d'avoir dealé. Et ça s'arrête là. Et le pitch, il se vend bien, en fait. Ça suffit. T'as pas besoin d'en savoir plus. Mais c'est vrai que lorsque tu creuses et qu'il parle des clients qui font la queue, de cette lassitude, de vouloir arrêter, mais t'es attiré quand même, et puis c'est une économie qui nourrit beaucoup de monde. Il y a de la vérité. La vérité. Mais c'est trop bien emballé.
Comme quoi, faut bien faire attention toujours à ce qu'on nous raconte. Parce que c'est pas parce que l'accent est joli que l'histoire est belle.
Et alors, toi, t'es rappeur, poète, écrivain. Le cannabis, c'est donc tout un vocabulaire, il y a un argot. Il y a une poésie de la weed pour toi ?
Est-ce que toi, tu as des termes, des mots particuliers que t'aimes bien utiliser pour parler du pétard ?
Non, vraiment pas spécialement. Souvent, j'ai même pas besoin de le nommer. On m'en fait un. Allez, vas-y un petit.
Tu vois ? C'est tellement naturel et confondu
la
avec toi.
Se pose pas, ouais, la question se pose pas.
Il y a popo qui revient dans tes textes quand même souvent.
Oui, j'adore ce mot, popo. Et pour moi, c'est la marque d'une époque. Ça me rappelle l'époque où le Marocain a commencé à disparaître à cause de ce cannabis pur qui est arrivé, qui était jaune, qui avait le goût de la fleur et qui a changé l'aspect de la fume et qui a conquis des nouveaux aficionados parce que ça donnait envie.
Et ça, c'était le pollen.
Et le popo, c'est le pollen, le popo.
Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Nous sommes qui nous sommes. Et tout ça, c'est la somme du pollen dont on s'est nourri.
Le popo. Ça me rappelle Marseille, tu vois.
T'as les
Marseille,
yeux qui brillent.
Bah ouais, c'est les quartiers nord, tu vois. Enfin, tout ça, le popo. Et puis c'est tellement mignon, popo.
Bah merci beaucoup, Oxmo.
C'est fini déjà ?
Bah, presque.
Presque fini. C'est presque fini. On va te garder encore quelques toutes petites minutes.
D'accord, j'ai.
On te retrouve dans un tout petit instant pour notre séquence finale. C'est la banane de fin. À tout de suite.
Vive la banane.
Banane à Cash. Le podcast des cultures du cannabis.
Encore une fois, on a rendu une banane heureuse.
Père Oxmo, raconte-nous une histoire, encore une histoire.
On aurait pu rester toute l'après-midi comme ça à parler de popo devant un chocolat chaud. Mais Oxmo a dû enfiler son cache-cou et visser son bonnet pour affronter le froid hivernal. Et nous, on est reparti allégé d'une banane.
Verte ou jaune, l'avenir le dira.
Mais le cœur bien chaud.
Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous soutenir. Pensez aux mots d'amour et aux 5 étoiles sur les plateformes de podcast, ça prend 30 secondes. Et ça nous donne la banane, évidemment. Merci à notre éternelle réalisatrice Charlène Nouyoux. Restez bien jusqu'à la fin du générique pour découvrir la couleur de la banane avec laquelle Oxmo a choisi de repartir.
Gros, gros suspense.
On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Et d'ici là, ciao,
ciao. Chanvre et Marie-Jeanne, opium à chiche, Blanche-Neige, Sticky, Trip et Joint, Hervé Voyage au bout de l'acide, lysergique, dithylamide et la nuit.
Oh! What the shit.
Et voilà, voici le moment venu de notre séquence finale. C'est l'heure de soumettre Oxmo Puccino à l'interrogatoire de la banane de fin.
Terrible dilemme.
Quel dilemme.
On t'a entendu hurler quand tu nous as vu sortir les bananes.
Oui. Et en fait, c'est quoi ? C'est.
Eh bien, on te propose de choisir entre la banane jaune.
Oui.
Ou la banane verte. Tu repars avec ce que tu préfères.
Mais je ne vois qu'une banane, moi. Je n'en vois qu'une seule. Elle est géniale.
Elle est verte.
Je te remercie infiniment du fond du cœur.
Bon, par contre, on a une petite confidence à te faire.
Mmh. On n'a pas de plaire, celle-là.
Il y a une petite pénurie du côté de Banana Cush. Du coup, c'est une banane sans son principal principe actif.
Une banane flambée.
Sans alcool, la fête est plus fun.
Ouais.
Je vais la récupérer. Je vais la remplir.
Ah, bah voilà.
Tu vas l'ouvrir délicatement.
Ouvrir délicatement la peau de banane et la refermer.
Comme si de rien ne s'était passé.
Ouais. Attention. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
Comme si on était au stade, comme si on